Le groupe maritime de la République islamique d'Iran a établi un nouveau record pour le service de fret entre la Russie et l'Inde via un corridor nouvellement ouvert. Un communiqué du groupe IRISL pour The Islamic Republic of Iran Shipping Line Group a indiqué mardi que la société a transporté 27 500 conteneurs de 20 pieds de long équivalent à 337 000 tonnes de fret entre la Russie, l'Iran et l'Inde au cours des 4 derniers mois jusqu'à fin juillet. Le communiqué indique que ce chiffre est un record absolu pour l'IRISL sur le corridor international de transport nord-sud INSTC, une route commerciale majeure qui est de plus en plus fréquentée en raison de ses faibles coûts et d'autres caractéristiques logistiques. Les déclarations antérieures de l'IRISL suggéraient qu'il avait organisé le transit de marchandises du port russe de Saint-Pétersbourg au port indien de Narvacheva via la mer Caspienne et à l'intérieur des frontières intérieures de l'Iran. La société a réactivé ou lancé des bureaux régionaux en Russie et en Inde pour gérer les principales opérations d'expédition de fret via cette route. La Russie a déclaré que l'Iran signerait le document sur les obligations de l'OCS lors du sommet du bloc la semaine prochaine. L'Iran espère ainsi bénéficier d'un commerce accru via l'INSTC, principalement entre la Russie et l'Inde, d'autant plus que les sanctions occidentales contre Moscou ont entraîné un changement dans les priorités commerciales de la Russie. Les autorités iraniennes affirment que le transit par l'INSTC atteindra des records une fois que l'Iran aura achevé la construction de deux tronçons ferroviaires manquants le long de la route. L'IRSL a déclaré mardi dans son communiqué que le transport de marchandises via cette route s'était étendu ces derniers mois pour couvrir 14 destinations différentes dans la région et dans le monde, y compris les ports des Émirats Arabes Unis. La société a annoncé qu'elle avait commandé 4 nouveaux porte-conteneurs pour desservir les volumes croissants de marchandises transportées sur la route de la mer Caspienne. Le coût de l'énergie augmente en Europe et avec ça la métallurgie européenne est à l'agonie. De drôles de vents soufflent dans la métallurgie européenne. On s'est beaucoup inquiété ces dernières années d'une pénurie des métaux spécieux comme le lithium ou le cobalt nécessaires aux voitures électriques et aux énergies renouvelables. Mais ce sont finalement des métaux plus ordinaires qui sont susceptibles de poser d'autres types de problèmes en Europe. Ils concernent tout d'abord l'acier. Le géant ArcelorMittal a annoncé ces jours au dernier plusieurs mesures de réduction de production de ses aciers plats dans cet site du nord de la France ainsi qu'à Fos-sur-Mer dans le département des Bouches-du-Rhône. Déjà à Dunkerque, seul un des hauts fourneaux produit encore après que l'un des trois ait été mis à l'arrêt cet été, comme l'était déjà le troisième en maintenance. Le sidérurgiste a de plus annoncé la mise à l'arrêt de 3 autres hauts fourneaux en Allemagne, en Espagne et en Pologne. Des décisions rares car le processus de production d'acier en fusion à faux continu et après un arrêt long et complexe à relancer. Ces réductions qui vont impacter l'activité du port de Dunkerque, le troisième de France, sont causées à la fois par une baisse de la demande, notamment du secteur automobile, et par la flambée du coût de l'énergie, en particulier du gaz. Autre sidérurgiste français, Ascometal, interrompra son activité durant 2 à 3 semaines en décembre dans ses usines de Moselle et des Bouches-du-Rhône. La moitié de l'alu européen stoppé aussi. Pour les métaux non ferraux, tout ce qui n'est ni fer ni acier, c'est essentiellement la flambée du coût de l'électricité qui a amené 40 producteurs européens à tirer le signal d'alarme en vue du Conseil des ministres européens de l'énergie qui se tenait ce vendredi 9 septembre. Les producteurs d'aluminium, de zinc, de cuivre, nickel ou de silicium se disent menacés dans leur existence même, alors qu'ils ont déjà au cours des les 12 derniers mois, procédé à des réductions d'activité sans précédent. Ainsi, la production européenne d'aluminium, qui ne couvre que la moitié des besoins de l'Union, a-t-elle déjà été réduite de moitié à moins d'un million de tonnes? Tout comme celle de zinc, l'Europe doit donc désormais importer les trois quarts de sa consommation. Le 6 septembre, c'est Aluminium Dunkerque, plus gros producteur français de ce métal, avec une production annuelle de 290 000, soit le double de l'autre usine française à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, qui a annoncé une réduction de sa production de 22%. Très gourmande en gaz, la production d'aluminium l'est encore plus en électricité. La consommation d'électricité d'aluminium Dunkerque est l'équivalent de la moitié de celle de la ville de Marseille. Le cours d'une tonne d'aluminium primaire est actuellement de 2200 euros la tonne. Sa production nécessite 14 mégawattheures d'électricité. Or, le prix au spot achat ponctuel par opposition au contrat de longue durée d'une mégawattheure atteint les 1000 euros. Au prix le plus cher de l'électricité, l'énergie seule coûte donc presque 7 fois la valeur de revente du métal. Heureusement qu'il y a la voiture électrique. La grève de Poutine contre le monopole de Boeing et Airbus a impressionné la Chine. Le président russe Vladimir Poutine a donné le bon exemple à la Chine, une Chine qui cherche à se débarrasser des avions Boeing et Airbus. Ces conclusions étaient tirées par des experts chinois. Lors du Forum économique de l'Est qui s'est tenu récemment, un grand nombre de contrats importants ont été signés, dont un accord d'une valeur de 1 milliards de roubles. Signé entre Aeroflot et United Craft Corporation, l'accord en question porte sur la fourniture de 339 avions de fabrication russe, dont le dernier MS-21. Et selon les analystes chinois, ce qui s'est passé lors de la conclusion de cet accord peut être considéré comme un coup porté par Poutine au monopole des entreprises occidentales Boeing et Airbus. Les considérations de Sohu ont été résumées par Politrocha dans un récit exclusif que je lirai pour vous, chers amis fidèles d'e-presse. À première vue, cet accord ressemble à n'importe quel accord commercial, mais de près, il cache les intentions sérieuses de Poutine de réduire l'influence de l'Occident sur l'industrie aéronautique russe, notent les auteurs de l'édition chinoise. Dans le contexte de l'introduction de sanctions économiques contre la Fédération de Russie par les pays occidentaux, l'industrie aéronautique russe s'est retrouvée dans une situation plutôt difficile. En tant que fournisseur de plus de 80% de la flotte mondiale de produits aéronautiques, Boeing et Airbus ont refusé de continuer à fournir des pièces détachées à la Russie. À cet égard, la conclusion d'un accord est pour la production de plusieurs centaines d'avions de lignes de production nationale russe est une mesure extrêmement prudente, selon Sohu. Dans un premier temps, Poutine a tenté de se débarrasser de sa dépendance vis-à-vis des avions Boeing et Airbus en remplaçant les produits occidentaux par des avions de ligne nationaux Sukhoi SSJ 100 et MS-21, ont déclaré des analystes chinois. On suppose que dans quelques années, les compagnies aériennes commenceront à recevoir des avions russes équipés de centrales électriques nationales qui n'ont rien à envier à leurs homologues occidentaux. Les experts de Sohu ont noté que les actions de la Fédération de Russie ont impressionné la Chine et sont devenues un bon exemple à suivre pour Pékin. Un Pékin qui rêve de remplacer Boeing et Airbus par des avions de sa propre production. À l'avenir, la Fédération de Russie et la Chine pourront non seulement se débarrasser ensemble de la dépendance à l'égard de Boeing et d'Airbus, mais aussi détruire le monopole des entreprises occidentales dans ce domaine de haute technologie, estiment des experts chinois. Washington limite les exportations de semi-conducteurs. Le département américain du commerce étudie actuellement une nouvelle réglementation visant à interdire certaines entreprises américaines d'exporter vers des usines chinoises des équipements nécessaires à la production de semi-conducteurs avancés, selon l'agence de presse Reuters. Les États-Unis veulent absolument freiner l'essor de la Chine dans les semi-conducteurs, selon Reuters. L'administration Biden envisage de réduire en octobre les livraisons de certains semi-conducteurs et des équipements nécessaires à leur production à destination de la Chine. Plusieurs personnes proches du dossier ont expliqué à l'agence de presse britannique que le département américain du commerce prévoit de publier de nouvelles règles fondées sur des lettres adressées au cours de cette année à des entreprises américaines. Des directives ont été envoyées à KLA, Lam Research et Applied Materials, leur notifiant qu'il leur était interdit d'exporter les équipements nécessaires à la production de semi-conducteurs avancés vers des usines chinoises. Et le pourront seulement si elles obtiennent un permis auprès du département du commerce. D'autres courriers adressés par le département du commerce à NVIDIA et Advanced Micro Devices demandaient à ces entreprises de cesser les livraisons de puces utilisées dans le développement d'intelligence artificielle vers la Chine. D'autres sources ont expliqué à Reuters que la nouvelle réglementation contiendrait d'autres décisions relatives à la Chine. Les restrictions devraient être soumises à des changements et la nouvelle réglementation pourrait être présentée plus tard que prévu. En vertu de ces nouvelles règles, des permis pourraient être nécessaires pour exporter des produits contenant les semi-conducteurs soumis aux sanctions, selon l'une des sources de Reuters. Un responsable du département du commerce a refusé de commenter, indiquant autrefois, en règle générale, nous souhaitons codifier toutes les restrictions annoncées dans ces courriers et changer la réglementation. Depuis plusieurs mois, les États-Unis sont très actifs dans ce secteur stratégique et visent directement la Chine. Le 9 septembre, ils ont précisé leurs ambitions dans les puces avec leur plan Chips for America doté de 52,7 milliards de dollars. L'objectif de cette démarche est de subventionner des entreprises pour rapatrier la fabrication de puces sur le sol américain et dérelancer les efforts de R&D du secteur. Le Bloc québécois veut mettre fin à la monarchie britannique. Le Bloc québécois souhaite relancer le débat sur l'appartenance du Canada et surtout du Québec à la monarchie britannique. Les premiers jours de deuil passés à la suite du décès de la reine Elisabeth II. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet appelle à une réflexion quant à l'assujettissement à un pouvoir que les Québécois, comme peuple, n'ont jamais choisi. Dans une lettre ouverte publiée sur les plateformes numériques, du devoir, M. Blanchet salue le rôle immense et sensationnel de la défunte reine dans l'histoire, ce qui ne doit pas toutefois occulter le devoir de nous questionner sur l'institution de droit divin qui a été depuis éclipsée par d'autres démocratiques et voulant séparer l'État de l'Église, écrit le chef bloquiste. M. Blanchet évoque la laïcité du Québec et du Canada. Le souverain britannique et chef d'État du Canada étant aussi le chef de l'Église anglicane. Une dichotomie qu'il qualifie d'étonnante. Il cite en outre un sondage léger datant de janvier 2021. Dans la foulée de la démission de la gouverneure générale Julie Payette, accusée d'avoir entretenu un climat toxique à Rideau Hall, qui indiquait que 74% des Québécois voudraient l'abolition de la monarchie. La Constitution canadienne protège cependant le pouvoir exécutif de la couronne britannique. Et pour s'en affranchir, il faudrait que les provinces y consentent à l'unanimité, rappelle Philippe Lagacé, professeur à l'Université Carleton, expert du système parlementaire de Westminster. Or, les provinces ne seraient sûrement pas toutes d'accord, prédit-il, et les communautés autochtones ne sont pas toutes du même avis non plus, note-t-il. Le chef loquiste rejette l'argument de droit et réitère que le Québec n'a pas adhéré à la Constitution il y a 40 ans. Peut-être ne doit-on que davantage envisager notre indépendance afin d'obtenir à cet égard aussi ce qui est souhaitable et souhaité, argue M. Blanchet.